Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous et à toutes, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rencontre deux hommes déterminés, admirables et certainement passionnés par leur métier. On va parler entre autres de perte de vision, de maladie orpheline, mais aussi de motivation et de détermination avec David Demers et Julien Renaud. Et c'est tout de suite à Les Passions de Camille. Alors, j'accueille avec plaisir mon premier invité qui a 39 ans. Il habite sur la rive sud de Montréal et il est directeur général de l'Institut national canadien des aveugles de Québec. Et c'est David Demers. Bonjour, David.
Bonjour, Camille. Comment ça va?
Je vais très bien. Et toi, en pleine forme?
Oui, très bien. Merci beaucoup.
Alors, David, tu es directeur général de l'Institut national canadien des aveugles, comme je viens de le dire. Donc, on l'appelle aussi l'INCA. Parce que c'est l'acronyme INCA. Oui. Parce que, en fait, toi, tu as toi-même perdu la vue avant de franchir le cap de tes 30 ans. Est-ce que tu peux nous en parler?
Tout à fait. Moi, j'étais en plein carrière de photographe et de chef cuisinier. J'avais ma compagnie et j'étais sur le point d'avoir un restaurant aussi. Fait que j'étais vraiment en plein voile, mais soudainement, j'ai perdu la vue. Littéralement, je me suis rendu au travail le matin en voiture, puis l'après-midi, j'étais plus capable de conduire. C'était vraiment soudain.
C'est le moins qu'on puisse dire. Soudain, je veux dire, en une journée, en quelques heures, le tout s'est manifesté, de A à Z.
Oui, puis je m'attendais pas à ça du tout. Fait que c'était vraiment un choc, là.
J'imagine bien. Et donc, comment, j'imagine qu'après, tu as dû faire des démarches. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tu étais dans ta voiture, tu t'es rendu compte que, tu passes d'une vue embrouillée à ne plus rien voir du tout. C'est un choc, mais c'est paniquant.
C'était un choc, c'était paniquant, puis beaucoup d'ambiguïté parce que les médecins savaient pas qu'est-ce qui m'arrivait. C'est une maladie très rare, fait que ça a pris presque un an avant qu'on sache vraiment ce que j'ai. Fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain à passer à travailler comme 50 heures semaine, à pas travailler du tout, à me trouver un peu prisonnier de chez moi, puis à être un peu très dépressif au début même. Fait que c'était difficile.
Est-ce que, donc, après un an, dans toutes ces démarches-là, qu'est-ce que les médecins ont trouvé? Est-ce qu'il y a un... Parce que, je veux dire... Plusieurs personnes, évidemment, perdent la vue, mais ça se passe pas de la même façon pour tout le monde. Toi, dans ton cas, c'était relié à une maladie en particulier?
Oui, en effet, on a su plus tard que c'était une maladie génétique dans ma famille qui s'appelle la neuropathie optique héréditaire de Leber ou la maladie de Leber. Et puis, on a su plus tard mon frère aussi qui a été affecté. Puis c'est une maladie qui affecte le nerf optique. Fait que quand les gens me regardent, mes yeux ils ont de l'air correct. J'ai pas de l'air d'avoir une perte de vision, mais c'est vraiment un problème avec mon nerf optique qui fait que je vois absolument rien devant moi. Puis dans ma zone périphérique, je vois vraiment juste des formes et des ombrages.
Donc c'est impossible de reconnaître les traits de visage.
Impossible de voir des visages ou de lire du texte, de vraiment tout ça. Là. Un écran d'ordinateur, ça se fait pas vraiment non plus.
Et donc, quand tu me parles de ton frère qui est plus jeune que toi?
Non, en fait, il est plus vieux. Fait que ça l'ajoute à l'ambiguïté dans tout ça. On disait que normalement, ça l'affecte entre 20 et 30 ans. Puis moi et mon frère, on avait tous les deux autour de 30 ans ou un peu plus. Fait que c'était très, très inattendu.
Et c'est aussi donc la maladie de Leber, c'est entre autres transmis surtout de mère en fils, justement.
Oui, effectivement. Ça va affecter les femmes qui sont porteuses, mais vraiment, normalement, ça affecte juste les hommes. Fait que la bonne nouvelle pour moi, c'est que je sais que ma fille, elle l'aura pas, parce que moi, je ne le transmets pas, par exemple.
Mm-hmm. Et donc, ta fille, c'est une petite fille qui est de 2 ans et demi.
Oui, j'ai une petite fille de 2 ans, belle petite famille, je suis très content.
Eh bien oui, certainement. Il y a une question qui me vient naturellement, mais évidemment, ta fille, ta façon de la reconnaître ou d'entrer en contact avec elle, est-ce que tu as une façon de faire ou une relation qui est quand même plus particulière? Vous deviez être très proche, mais d'une façon autre qu'avec le regard?
Oui, bien, je pense que c'est en développement, cette relation-là. Vu qu'elle est encore très jeune, si elle ne comprend pas que j'ai de la difficulté à voir, j'essaie de lui expliquer que j'ai les yeux cassés, par exemple. J'essaie de trouver des moyens qu'elle comprenne. Puis je pense que ma fille, ça va être une des personnes les plus sensibilisées par rapport à la perte de vision, puis les gens qui vivent avec un handicap. Elle va être très sensibilisée à ça, sans doute.
Oh oui, sans aucun doute. Et donc, chez toi, j'imagine que tu te déplaces chez toi et à l'extérieur avec une canne blanche?
Oui, j'ai une canne blanche, puis aussi depuis un an, j'ai un chien guide. Fait qu'avec mon chien guide, c'est formidable. Là. Je peux vraiment... On dirait que je marche plus vite. Les bancs de neige, je m'enferme plus dans la neige. Et puis, vraiment, c'est rendu que je prends des marches pour le plaisir.
En fait, c'est plaisant que justement tu parles de la notion de plaisir parce que ce qu'on comprend derrière ça, c'est que sortir avec une canne blanche, c'est quand même c'est sportif, si on peut dire ça comme ça.
Oui, puis c'est vraiment moi ce que j'aimais pas, c'est que c'était toujours en train de me demander c'est quoi le prochain obstacle que je vais détecter avec ma canne. Parce que c'est vraiment juste ça, on peut foncer dans un objet avec la canne nous rentre dans le ventre, puis c'est pas agréable. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui marche vite puis qui veut marcher beaucoup. Fait que pour moi, le chien, c'était la meilleure solution, je pense.
Magnifique. Et au moment où tu as perdu la vue, donc à l'aube de ta trentaine, quel réflexe tu as eu, pour devenir en fait le plus fonctionnel malgré que tu venais de perdre la vue? Qu'est-ce que tu voulais absolument et impérativement être capable de faire à nouveau?
Ben vraiment, mon premier réflexe quand j'ai perdu la vue, c'est vu que je suis quelqu'un de très ambitieux, très fonceur dans la vie, un entrepreneur même, je me suis dit, mon Dieu, ma vie peut pas s'arrêter là. Je dois trouver un moyen de continuer à contribuer à la société, à participer dans le monde du travail. Je voulais pas que ma vie s'arrête là. Mais c'est sûr que c'était difficile au début. Je me retrouvais beaucoup à juste dormir chez moi parce que je voyais encore dans mes rêves. Fait que malgré que j'ai une personnalité fonceur, il a fallu quand même que je trouve des moyens de me motiver puis de me prouver que je suis capable.
Mm-hmm. Et avec ça, il devait y avoir certaines frustrations quand on parle de petits gestes du quotidien qui peuvent paraître banals, mais littéralement sortir de chez toi ou même aller acheter une pinte de lait au coin de la rue, pour toi, ça devenait un peu un projet de la journée.
En plein ça, c'est moi au début j'attendais pour qu'on m'aide à utiliser une canne blanche parce que un de mes premiers objectifs c'était aller m'acheter une pinte de lait au dépanneur ou à l'épicerie, vraiment juste essayer d'être autonome, de me déplacer. Mais vraiment ça nous affecte dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit d'essayer de s'habiller, de se regarder dans le miroir, ça nous suit tout partout, la perte de vision. Fait que c'est certain que il y a des moments où je trouve ça frustrant quand même aujourd'hui, comme quand je brûle un aliment, quand je cuisine, ou si j'essaie de faire quelque chose puis je réussis pas. Ça m'arrive encore de blâmer ça sur ma perte de vision, même si je constate que je me suis bien adapté. C'est toujours quand même frustrant parfois.
Oui, j'imagine. Puis tu parles d'adaptation versus acceptation. Est-ce qu'on accepte réellement d'avoir perdu la vision ou, comme tu dis, c'est plus une question d'adaptation au quotidien?
Ben moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je dis, je pense que la perte de vision, puis ça doit être comme ça pour pas mal tous les handicaps qui nous arrivent. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à accepter, mais qu'on apprend à vivre avec. Ça, c'est mon opinion.
Donc, c'est la résilience.
Oui, tout à fait. C'est sûr que ça prend de la résilience. Puis moi, je sais que je suis quelqu'un de fonceur, comme tu disais. Donne-moi un obstacle, puis je suis encore plus motivé à défoncer les barrières, puis... Je pense que c'est pour ça que je faisais partie de tous ceux, avant, quand j'ai perdu la vue, je faisais partie de tous ceux qui croyaient au mythe, dans le fond, que toutes les personnes aveugles sont dans l'obscurité totale ou que toutes les mauvaises conceptions que les gens avaient, je les avais. Fait que je me suis dit, je vais appliquer ma personnalité fonceur à aider à démystifier ces choses-là dans la société. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer à INCA.
Oui, puis il y a clairement des avantages à, comme tu dis, être fonceur puis de vouloir un peu défoncer les murs. C'est ce que tu as fait aussi dans ton parcours d'étudiant même.
Tout à fait, vraiment. Les gens étaient surpris juste que j'étais capable de me rendre à l'université. C'est quand même un exploit quand on a de la difficulté à avoir de prendre l'autobus, le métro et tout ça. Puis beaucoup de gens se rendent pas compte combien de concentration ça prend juste pour se rendre à l'école ou au travail. Puis c'est ça que j'ai vite constaté, que la barre est basse un peu, je trouve, pour les gens dans ma communauté. Fait que je me suis dit, ça prendra pas grand-chose pour impressionner le monde. Mais je voulais aussi que les autres puissent, tous ceux qui sont pas aussi fonceurs que moi, puissent quand même avoir autant de chance que moi j'ai eu. Fait qu'encore une fois, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose.
Et donc, tu as étudié à l'université en affaires publiques et communautaires. Et tu as une anecdote avec un professeur en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben oui, ben parce que ça m'arrivait parfois de demander plus de temps sur mes travaux. Puis en grande raison, c'était parce que je recevais mes livres tellement tard dans l'année. Ça prenait du temps à adapter mes livres. Puis aussi, des fois, ben je demandais un peu plus de temps en raison de mon handicap. Puis il y a un professeur qui est venu me voir une fois après le cours qui m'a dit « Ouais, David, j'aurais pas dû te donner plus de temps, t'as eu la meilleure note dans la classe. » Puis c'est là que j'ai dit, ben j'ai perdu mes yeux, pas mon cerveau.
Et qu'est-ce qui t'a répondu à ce moment-là?
Ben honnêtement, je pense qu'il faisait plaisir ça pour rigoler.
OK.
Mais en même temps, j'ai trouvé que le commentaire était un peu déplacé. Fait que je pense qu'il a changé de sujet, honnêtement, si je me souviens bien.
Il s'est un petit peu fait prendre à son propre jeu.
Ouais.
Et je poursuis un peu dans la lignée de quand tu dis que t'es fonceur, non seulement donc ça t'a pas empêché de faire tes études, évidemment, mais ce que je trouve beau aussi, c'est que tu as osé, et je dis bien osé, appeler le directeur de la compagnie eSight, qui produit entre autres des lunettes électroniques. Ben, j'allais te dire pourquoi toi ça t'intéresse, mais évidemment, t'avais un réel intérêt, mais t'as foncé encore une fois.
Oui, ben c'est vrai. Je me suis beaucoup impliqué dans le milieu de la perte de vision en étant ambassadeur et porte-parole pour IMCA. Puis au travers de tout mon cheminement à m'impliquer dans le milieu, j'ai découvert la compagnie eSight qui fabrique des lunettes électroniques pour les gens avec une vision partielle. Mm-hmm. Et puis j'ai fait quelques conférences pour eux. Je suis devenu un utilisateur même de leur technologie. Mm. Et c'est en faisant du réseautage comme ça. Quand j'ai fini mes études, j'ai appelé le directeur chez eSight et j'ai dit, ça y est, j'ai fini mes études, je veux travailler pour vous. Puis c'est comme ça, j'ai osé, puis j'ai été confiant en moi, puis même pas 2 jours plus tard, je travaillais pour eux.
Wow! Et David, pour faire un petit clin d'œil à ce dont on est en train de parler, je propose qu'on passe à notre petite pause musicale. Les gens vont comprendre, on en discute tout de suite après.
OK. Thank you.
C'était Corey Hart et sa chanson Sunglasses at Night. Et on discute avec David Demers. David, cette chanson, est-ce qu'elle parle un petit peu de toi?
Oui, vraiment, parce que la maladie que j'ai fait en sorte que je suis très sensible à la lumière. Et puis, j'ai pas mal tout le temps mes lunettes de soleil sur moi, que ce soit le jour ou le soir. Fait que cette chanson-là m'interpelle vraiment. Ça parle de moi, j'ai l'impression. Le fait que je mets mes lunettes de soleil le soir.
Mais c'est beau, c'est une belle image parce que tu t'appropries cette image, oui, avec les lunettes, mais on voit bien donc qu'il y a eu un cheminement par rapport à ta maladie parce que, comme tu l'as dit en début d'entrevue, t'étais pas prêt à ça du tout. Mm-hmm. Mais pourtant, tu nous parlais aussi à quel point, parmi tous les préjugés face aux personnes aveugles, il y a des chiffres qui disent qu'à peu près, seulement 30 à 40% des personnes aveugles réussissent à trouver un emploi. C'est peu.
Oui, c'est même moins que ça. Ah. Ça tourne plus entre le 20 à 30% selon la province, là. Puis, en effet, c'est vraiment trois fois plus bas que le taux d'emploi régulier. Et c'est vraiment trop bas, là. On a besoin de contribuer plus, puis aussi, je pense que la société a besoin de notre contribution.
Complètement. Et toi, tu fais justement, tu fais plus que ta part à ce niveau-là, parce que, donc, étant, je le répète encore, mais directeur général de l'Institut national canadien des aveugles, l'INCA, j'ai envie que tu nous en parles un peu quand même, parce que vous proposez des programmes, des services, ça ressemble à quoi?
Oui, puis vraiment, on a des programmes et services pour les jeunes de tous les âges. Donc, les jeunes, on a des programmes plus culturels et éducatifs pour apprendre le braille, pour la littératie, c'est tellement important à un jeune âge pour poursuivre ses études. Ensuite, pour tous les groupes d'âge, on a ce qu'on appellerait plus des programmes pour briser l'isolement, comme des cafés-rencontres, des groupes d'entraide thématiques, des groupes de discussion. Mais on a également du soutien psychosocial. Donc, pour ceux que leur perte de vision est récente, on a des groupes de discussion sur le deuil de la perte de vision où on peut échanger avec d'autres gens aussi qui le vivent. On a des formations en technologie adaptée très populaires pour apprendre à utiliser l'ordinateur, naviguer l'Internet, pour utiliser le téléphone intelligent aussi. On a même un cours sur Facebook qui est très populaire. Mais on a également notre programme carrière et emploi. Puis c'est vraiment ça, le but de l'INCA, c'est on se dit que tout est relié, au fond. À la jeunesse, c'est l'éducation, la participation sociale plus tard. C'est toutes ces choses-là, et être capable d'utiliser la technologie, adapter toutes ces choses-là, nous amène vers l'emploi, qui est une participation sociale ultime, qui fait que les gens ont les moyens après de se payer des vacances, d'être un consommateur. Donc, vraiment, tout est tourne autour de ça. C'est pas obligé d'être juste pour les gens qui veulent travailler, les gens qui viennent chez nous. C'est tous les âges, comme je disais. Mais on travaille très fort à ce niveau-là. On a des partenaires majeurs comme Apple qui s'est engagé à embaucher une personne aveugle dans chacun de leurs magasins au travers le Canada. On a Brick et Canadian Tire qui ont adapter leurs entrepôts pour pouvoir embaucher des gens de notre communauté. On a au-dessus d'une trentaine de partenaires comme ça et il y en a à tous les mois qui s'ajoutent. Les compagnies veulent de plus en plus être inclusives.
C'est une tellement belle nouvelle, surtout que en fait, votre vision et la mission d'INCA, c'est au final de célébrer les facultés et les forces au lieu de porter trop d'attention au côté vulnérable des personnes aveugles.
Tout à fait, Camille. Merci de l'avoir mentionné, parce qu'à INCA, on existe depuis plus de 100 ans. Puis dans les premiers 100 ans, après 100 ans, on a réfléchi, puis on a réalisé que depuis 100 ans, on traitait les personnes aveugles un peu comme des cas de charité individuelle. C'est des gens en besoin qu'il faut leur donner un panier de ressources pour qu'ils s'en pour les aider. Mais à place, on a complètement changé notre langage, notre discours dans notre mission. Et maintenant, c'est tout autour de célébrer la capacité des personnes aveugles. Fait qu'au lieu de les voir comme des personnes en besoin, des personnes vulnérables, on les voit comme des personnes qui ont une capacité à contribuer, à vraiment faire partie outils de la société. Fait que ça, je pense que ça change tout le discours et toute l'approche qu'on a dans ce qu'on fait.
Eh oui, ça prouve bien à quel point les mots qu'on emploie sont importants pour sensibiliser les gens et la société à tous les types de handicaps, et là, en l'occurrence, aux personnes qui ont une perte de vision. Et en ce moment, parce qu'il faut savoir que l'INCR reçoit presque pas de subventions du gouvernement, et si je peux dire ça comme ça, mais en ce moment, vous n'avez pas besoin d'un coup de main ou d'un coup de pouce, mais plutôt d'un coup de patte. En ce moment.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Puis comme vous avez dit, Camille, on dépend vraiment majoritairement sur le soutien et la générosité du public. Le gouvernement nous donne des subventions ici et là, mais c'est moins que 5 % de notre revenu au Québec. C'est beaucoup moins que 30 % dans le reste du Canada. Fait qu'on a vraiment besoin de votre soutien. Et en ce moment, on a une grosse campagne pour notre école de chiens guides. On fait aussi des chiens guides à INCA. La demande a multiplié énormément à cause que la frontière est fermée. Puis beaucoup de Canadiens allaient aux États-Unis chercher un chien. Okay. Fait que là, la demande est très, très élevée. Et là, on demande un coup de patte au lieu d'un coup de main pour nous aider à financer les chiens guides.
Pour avoir une idée, je pense qu'on n'est pas beaucoup à le savoir. Ça coûte combien, justement, de jumeler un chien guide avec une personne qui a une perte de vision?
Ben c'est quand même très dispendieux. Il y a différentes écoles qui donnent différents coûts reliés à ça. Nous, ce qu'on dit, c'est autour de 50 000 $. Fait que c'est quand même très dispendieux parce que ça inclut l'élevage du chien, le vétérinaire, la nourriture, les employés pour s'en occuper, puis tout le suivi pendant la vie du chien, les soins vétérinaires après à sa retraite, parce qu'on croit, nous, que le chien devait être bien traité après sa retraite aussi, il a travaillé fort. C'est vraiment les coûts du début de la vie du chien jusqu'à la fin de sa vie, ça ressemble à ça, à peu près 50 000.
Wow! Donc, on espère, en fait, s'il y a des personnes qui nous entendent aujourd'hui, c'est vrai qu'on, justement, on a besoin d'être sensibilisé et conscient de tout l'effort, l'énergie et, oui, l'argent aussi qu'on doit amasser parce que, comme tu l'as dit toi-même, qui a un chien guide, ça change ta vie complètement.
Bien, c'est ça aussi. C'est pas juste on a besoin d'argent parce que ça coûte cher un chien. C'est vraiment on a besoin d'argent parce que les chiens amènent de l'autonomie incroyable chez les gens. Puis la grande majorité des personnes qui ont un chien guide travaillent. Donc, c'est vraiment un outil qui les aide à avoir plus confiance en eux, puis à travailler, à se déplacer. Fait que c'est vraiment cette aide-là que vous nous apportez.
Mm-hmm. Et pour terminer, David, quelles sont tes passions, en fait, dans la vie? Il nous reste encore quelques minutes. J'entends bien hein, en fait, je pense que ton métier, ton travail, c'est sans aucun doute ta première passion. Tu adores travailler à défendre les droits et libertés de tous et chacun. Mais est-ce qu'il y a d'autres passions que tu as et qu'on ne connaît pas?
C'est vrai que la mission que j'ai actuellement, ça fait une grande partie de ma vie, mais j'ai certainement encore une grande passion pour la cuisine. J'apprends encore à être un peu moins frustré quand il arrive de quoi qui ne marche pas, mais j'ai aussi une très grande passion pour la musique. Je suis un drummer et je joue aussi un instrument qui s'appelle l'auto-harpe. C'est un instrument à 36 cordes. Et puis, c'est ça. Ça fait plusieurs années que je compose de la musique. J'ai déjà été dans un groupe aussi. Fait que, j'ai un côté un peu artistique et créatif, ayant été photographe aussi dans le passé. Fait que, ouais.
Que c'est beau, on est à la radio, j'aurais bien aimé pouvoir t'entendre ou te voir en jouer. Est-ce qu'il y a des vidéos sur Internet où on peut te voir jouer de l'auto-harpe?
J'ai pas de vidéo, mais j'ai enregistré 3 chansons en studio, dont une que j'ai gagnée. J'ai été dans les 10 finalistes d'une compétition aux États-Unis. Fait que je pourrais certainement t'en partager une chanson, Camille.
Ah ben écoute, OK, on reste en contact pour ça. Et pour terminer, David, en quelques mots, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil aux gens ou plutôt leur apprendre quelque chose sur le monde, la réalité des gens qui sont en perte de vision?
Ben moi, je pense souvent à des situations comme quand une personne aveugle, et ça m'arrive à moi aussi fréquemment, on est accompagné d'un accompagnateur ou d'un membre de notre famille. Les gens ont tendance à adresser l'accompagnateur au lieu de la personne aveugle ou ils ont tendance même des fois quand ils sont devant une personne aveugle à parler plus fort ou comme si on était moins intelligents ou moins capables de les comprendre. Puis ça, ça me dérange, ça. Moi, le message que je veux vraiment apporter aux gens, c'est que les personnes qui vivent avec un handicap, c'est des personnes comme tout le monde, avec des désirs, avec des passions, avec des rêves. Puis tout ce que moi, je veux, c'est qu'on puisse rêver et être ambitieux comme tout le monde.
Que c'est beau, c'est entendu. David Demers, merci infiniment.
Merci, Camille.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit Julien Renaud. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille, toujours ici présente, et j'accueille mon deuxième invité qui est chef de pupitre, journaliste et chroniqueur pour le journal Le Quotidien à Chicoutimi, et c'est nul autre que Julien Renaud. Bonjour Julien.
Bonjour Camille.
Comment tu vas?
Ça va super bien, et toi?
Très bien, merci. Est-ce que t'es un homme occupé, Julien?
Oui, très occupé. Toute cette semaine, en plus, on avait un congrès en même temps de devoir livrer le journal, donc grosse semaine.
Donc, on est chanceux de t'avoir à l'émission aujourd'hui en plus.
Oui, mais ça me fait un grand plaisir.
Alors, ben Julien, j'aimerais d'abord et avant tout que tu me parles de ton handicap, parce que c'est une maladie qui est quoi, qu'on dit rare, ou une maladie orpheline?
Oui, tout à fait. C'est une maladie assez rare qui commence à être de plus en plus investiguée. Donc, il y a de plus en plus de diagnostics, là, mais c'était une branche là, de la neurologie qui était plus ou moins investiguée jusqu'à maintenant. Donc, ça s'appelle la neuropathie des petites fibres. En fait, là, c'est les fibres là, à la surface, juste en dessous de la peau. Un homme de 25-30 ans, ma tranche d'âge, habituellement, a une densité de 11 fibres par millimètre, et moi, je suis à 1,5, ce qui fait en sorte là, que chaque fibre est sur-sollicitée puis très réactive, là, notamment à la douleur.
Et donc, cette maladie, tu l'as depuis combien de temps, ou en tout cas depuis quand est-ce que tu as ressenti les premiers symptômes?
Mes premiers symptômes remontent à 2015. Mais au début, c'était des symptômes somme toute mineurs qui s'apparentaient là, au syndrome du tunnel carpien. Donc, c'était vraiment des faiblesses, douleurs dans les avant-bras. Mm-hmm. Puis c'est en 2017, là, à partir décembre 2016, début d'hiver 2017, que là, ça s'est propagé aux jambes avec aussi des problèmes de concentration, des grosses migraines, tout ça. Puis je suis rentré à l'hôpital le 5 mars 2017. J'ai paralysé des jambes pour quelques jours. Là. Je pense que c'était un signal du corps qui disait « bon, faut aller investiguer c'est quoi ce mal-là qui traîne en arrière-plan depuis trop longtemps. Mm-hmm. » Donc, c'est ça, mars 2017, là, que c'est vraiment devenu un handicap sérieux dans ma vie. Là, avant ça, je voyais des symptômes, mais je ne considérais pas que j'avais nécessairement une maladie grave. Là.
Donc, tu avais aussi notamment des problèmes d'équilibre avant de perdre complètement... Ben, en fait, est-ce que tu as complètement perdu l'usage de tes jambes? Parce que tu te promènes autant en fauteuil roulant, mais qu'avec une marchette aussi.
Oui, en ce moment, j'alterne la canne, même pour des petits déplacements, marchette, fauteuil, dès que je sors de la maison. Mais oui, j'ai eu un épisode de paralysie. En fait, c'est plus les signaux du cerveau qui ne se rendaient pas. J'avais mes sensations, j'avais des capacités musculaires, tout ça. Okay. Les muscles pouvaient réagir, mais je n'étais pas capable de donner de commandes à mes jambes. Donc, j'ai eu 4-5 jours là, où j'étais vraiment incapable de bouger mes jambes. Ça s'est replacé. Ça a été quand même plus difficile au début. Là. J'avais énormément de misère à marcher. J'ai retrouvé tranquillement l'équilibre, un petit peu de force, un peu de... Je pense en connaissant de plus en plus ma condition.
Oui.
Puis là, c'est ça. Là, je suis présentement dans une bonne phase là, où j'utilise surtout la canne. Vu qu'on est en télétravail à la maison, je me promène moins. Mais dès que je sors, là, c'est en fauteuil pour ne pas prendre de risques. J'ai quand même une faiblesse là, qui est là en permanence. Puis je me fatigue là, vraiment très rapidement.
Oui. Et sachant que cette maladie est de plus en plus investiguée, qu'est-ce que la cause génétique a à voir dans tout ça?
En fait, il y a au-dessus de 300 causes, là, c'est, on dit maladie ou condition, parce que c'est souvent le résultat d'une autre maladie de fond. Mais mon médecin me disait que là, c'est pas mal chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui. Donc, on n'est pas présentement à essayer de trouver la vraie raison du pourquoi j'ai ça. Ça semble pas génétique dans mon cas, puis je pense que sur les 300 cas, il y en a 3% que c'est génétique.
Seulement.
Donc, je ne devrais pas transmettre ça si j'ai des enfants, puis j'ai aucun historique familial non plus. Donc, ça, c'est quand même rassurant de ce côté-là.
Je me doute un peu de ta réponse, mais est-ce que pour toi, personnellement, dans ta vie, dans ton accomplissement, dans tous tes projets, est-ce que c'est nécessaire et important pour toi de connaître la cause ou au contraire, non?
En fait, je m'étais fait à l'idée de ne pas le savoir. Mm-hmm. J'ai quand même, ça a pris presque un peu plus de environ trois ans avant un diagnostic, puis on savait qu'on était dans la case là, des maladies très rares, puis que c'était un petit peu à l'aveugle qu'on cherchait. Puis finalement, j'ai eu un nouveau neurologue super jeune qui s'intéressait à cette nouvelle branche-là, ce qui a fait que j'ai eu un diagnostic beaucoup plus vite que prévu. Je m'étais fait à l'idée, c'est sûr que j'avais toujours en tête le spectre d'une potentielle maladie dégénérative. Donc, je suis encore très actif, très autonome, mais je me disais, bon, est-ce que je vais l'être dans 5 ans? Au moins, ça, c'est relativement là, écarté. Comme je disais, là, j'étais à 1,5 sur 11, donc c'est dur d'aller plus bas. Je pense que le cas le plus bas chez un humain, ça a été 0,8. Donc, je ne devrais pas m'empirer tant que ça. Donc, ça, c'est sûr, ça permet de faire des projets à plus long terme. Je ne m'empêchais pas de rien faire, mais c'est sûr qu'il y avait cette idée-là, là, en trame de fond, qui restait en tête, là, autant pour moi que pour mes proches.
Oui, j'imagine. Et sachant que tu es journaliste et chroniqueur, tu dois être un homme de mots ou de paroles, si j'ai envie de dire. Je serais curieuse de connaître quelle est ta définition à toi du handicap?
C'est une très bonne question. Je suis un homme plus de mots que de paroles, alors peut-être que j'aurais pu pondre un texte là-dessus. Moi, je vois vraiment ça comme vraiment une limite physique. Pour moi, c'est simplement une limite de mobilité. Aucune autre limite là, intellectuelle, d'accomplissement, je m'empêche de rien faire, je fonce, je sais tout. Donc, c'est juste une contrainte physique que j'ai de plus à prendre en compte et à surmonter et à affronter. Donc, je le vois vraiment comme ça, même que c'est rare, j'utilise le mot maladie. Mm-hmm. Pour moi, c'est vraiment une condition de mobilité. Là. C'est mes déplacements qui sont devenus plus difficiles et c'est tout. Oui, j'ai de la douleur, mais je l'endure bien. Oui, il y a d'autres symptômes, mais c'est vraiment la mobilité là, qui est plus handicapante en tant que telle. Donc, je dirais que c'est un peu ça pour moi, le handicap. Là, c'est un frein à la mobilité pleine et totale.
Oui, ben, je suis bien d'accord avec toi, je l'entends bien. Et donc, ça veut dire que ton environnement et l'environnement tout court rentrent en jeu directement avec cette limitation.
Ah, ça, c'est sûr, oui, totalement. Puis moi, c'est arrivé assez subitement, comme je disais, en 2017. Donc, j'avais 25 ans à ce moment-là. Donc, très actif, sportif, voyage, coopération internationale. Je bougeais beaucoup, jouais au tennis 4 à 5 fois semaine. Donc, c'était un changement de vie total. Journaliste aussi sur le terrain, on est appelé à se déplacer rapidement, à aller un petit peu partout. Des fois, c'est pas des chemins battus sur lesquels on va. Donc, ça a été de remodeler ma vie au complet autour de ces nouvelles contraintes-là pour me réadapter. Donc, c'est ça, au travail notamment, là, je suis davantage au pupitre, là, qui est la correction, la mise en page, le graphisme, la supervision aussi, coordination d'équipe. Donc, on a réadapté mes fonctions. Je m'en allais déjà vers ça. Par contre, donc ça a bien fait de ce côté-là. Mais oui, il y a eu un déménagement parce que j'étais chez un ami qui avait des marches à l'entrée, autant pour aller en bas qu'en haut. Donc, je pouvais seulement rester sur le seuil de la porte d'entrée.
Oui, c'est pas très intéressant.
Donc, un déménagement hyper rapide, adaptation du condo, voiture adaptée aussi. Puis tout ça prend beaucoup de délai.
Oui.
C'est souvent là, du 10-18 mois pour la voiture, pour la maison. Puis moi, c'était subi et je voulais rester autonome. Donc, j'ai dû provoquer un peu tout ça, acheter une voiture usagée pas 100% faite pour moi. Et là, j'ai eu la mienne un an et demi plus tard. Condo aussi, là, j'ai fait beaucoup d'adaptations. Mon père est dans la construction, donc il a fait beaucoup d'adaptations, même si j'avais pas les subventions, pour me rendre autonome. Donc, ça a été une grosse année 2017 là, pour pouvoir reprendre un fil de vie plus normal.
Ah oui, on n'en doute pas. Entendre tout ce que tu nous as nommé, c'est toute une aventure, tout un périple qui arrive tout d'un coup comme ça.
Oui, vraiment, c'est ça. Puis c'était subi, donc j'étais pas préparé, je connaissais pas ça. Donc c'est beaucoup d'apprentissage aussi. J'ai été quand même super bien entouré là, avec le personnel hospitalier, mais c'est énormément de démarches. Mais il fallait pas s'arrêter. Je pense que c'était facile de voir ça trop gros. Puis tout le monde me disait « retourne chez tes parents ». Moi, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce moment, mais mes parents sont de Repentigny dans la Naudière, donc j'ai pas de famille ici. Donc, le choix facile était de peut-être déclarer invalide ou un arrêt de travail long terme, retourner chez papa-maman, alors que non, j'ai décidé de continuer ma vie et de tout adapter rapidement, à vitesse grand V.
Et si je te parle d'accessibilité ou d'accessibilité universelle, c'est pas un peu ton sujet dada, ça?
C'est devenu mon sujet dada, effectivement. Comme je disais, je connaissais pas la réalité des gens qui vivent avec un handicap avant de l'être moi-même. Et j'ai vu qu'il y avait des manques extrêmes dans plein de domaines et j'ai voulu devenir un peu le porte-voix de cette cause-là parce que j'ai la chance de bénéficier d'une plateforme extraordinaire, là, d'un journal très implanté dans sa région, mais aussi on est dans un groupe de 6 journaux là, partout au Québec. Donc mes chroniques sont partagées dans l'ensemble du Québec. Donc j'essaie d'utiliser ça pour la cause. J'ai fait notamment là, une tournée d'accessibilité à Saguenay, tous les commerces, tous les édifices publics, un par un, essayer de rentrer dans chacun.
Et qu'est-ce que ça donne?
Voir parce les toilettes, oui? C'était aberrant. Global, le score final était de 43%. Oh. Donc j'ai fait les 6 centres-villes de Saguenay et j'ai pu rentrer dans 43% des commerces seulement.
Est-ce que c'est frustrant?
Oui, vraiment, vraiment. Puis on n'y pense pas. Puis quand on s'en rend compte, c'est vraiment frustrant. Et des fois, c'est tellement des niaiseries. Un bureau d'arrondissement, donc un service public qui a un bouton handicapé pour la première porte, mais pas la deuxième. Donc, on reste coincé dans un vestibule. J'ai vu la ville Promotion Saguenay, qui est l'organisme de développement économique ici, avait fait installer un nouveau bouton. Mais il y avait un seuil de porte d'à peu près 2 pieds. Donc, impossible à sauter en fauteuil. Des fois, c'est tellement... des niaiseries, c'est pas de la mauvaise foi. Ils ont fait des adaptations, mais c'est dans la pratique que ça fonctionne pas. Donc, j'ai voulu sensibiliser aussi de dire, bon, quand vous décidez de faire des investissements, ben, peut-être contacter quelqu'un qui vienne tester pour être sûr de bien faire les choses,
Pour
que ça soit efficace. Puis j'ai eu une rencontre avec la mairesse de Saguenay-José Néron à la suite de ma série de chroniques. On a fait le bilan de tout ce que j'avais remarqué dans les édifices publics qui ont tout pris en note, m'ont inclus dans un comité sur la question pour quelque temps.
Avec raison. Donc, le Festival des bières aussi?
Oui, ça a été un très bel exemple. Je pense que ça a été pratiquement une de mes premières chroniques en matière d'accessibilité. C'est ça, j'étais parti avec des amis au Festival des bières que j'allais à chaque année, puis je me suis rendu compte qu'ils mettaient les bureaux d'admission là, pour la vente des billets directement sur les stationnements handicapés de la zone portuaire à Chicoutimi. Donc, plus aucun stationnement pour personnes handicapées. J'ai fait une intervention, j'ai parlé avec la police, le promoteur que je connais très bien. J'ai fait une chronique disant que c'était le festival s'appelle le Festival des bières du monde. J'ai dit le Festival des bières du monde sans handicap. Ça a choqué. Ça a été un des textes les plus lus cette année-là au Québec.
Ça a fait le tour du monde autant que le festival.
Ouais, plus du Québec, là, peut-être pas du monde, mais quand même, ça a cheminé beaucoup. Puis 2 semaines après, le comité des événements de la ville de Saguenay a inclus comme nouveau critère que s'il y avait un stationnement handicapé qui est amputé, il devait en avoir un nouveau de créer avec affichage et tout ça. C'est devenu un critère que chaque événement, chaque festival doit se soumettre. Donc, il n'y a plus ces erreurs-là maintenant. Donc, c'est des petites victoires là, qui font une grande différence. J'ai des gens qui m'ont écrit qu'ils s'empêchaient d'y aller, puis que depuis les 2 éditions suivantes, ben, ils ont pu y aller grâce à cette chronique-là.
Et une chance que tu es là, Julien.
Ah, j'essaie.
Non, parce que franchement,
je veux pas trop prendre de mérite non plus.
Quand même.
Mais c'est ça, il y a des résultats, puis c'est encourageant, puis je le fais vraiment... C'est des résultats positifs. C'est une cause qui est quand même universelle, que les gens sont sensibles. Souvent, c'est une mauvaise connaissance qui fait qu'il y a des erreurs comme ça. On ne fait juste pas y penser. Le promoteur m'avait dit, si j'avais su ça, réfléchi à ça, j'aurais jamais fait ça. Je le sais très bien. T'sais.
Non, j'imagine bien.
Donc, c'est juste d'en parler le plus possible. Puis là, les gens font beaucoup plus attention, là, les corporations de centre-ville font attention, plein de commerçants m'ont écrit, il y a des nouvelles adaptations, ils m'invitent à aller tester ça, donc non, c'est super, c'est un climat positif, là.
Complètement. Puis là, on parle d'écouter, de parler, mais on va aller écouter une chanson aussi qui est porteuse d'espoir. On en rediscute ensemble, toi et moi, après.
Parfait.
Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Qui résiste, même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes, c'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
I've been trying to let it go, been trying to free my soul. But all the friends that I have lost, and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows, my bones mirror my own. Morning to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance. I'll breathe.
Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
C'était notre amie, Grand Corps Malade et Anna Kova et leur chanson « Espoir adapté ». Julien, quel beau choix de chanson.
Oui, hein? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écoutée. J'ai adoré la réécoute.
Ben, je vous dirais, justement, c'est une chanson qui est porteuse de beaucoup de messages. « Espoir adapté », le titre parle de lui-même. J'imagine que c'est une chanson qui te porte et qui t'inspire énormément, peut-être même quand tu rédiges tes chroniques.
Oui, ben, c'est une chanson que j'ai découvert au tout début de mon handicap. Mmh. Ça découle d'un film là, qui s'appelle « Patient » de Grand Corps Malade. Puis ça a été mon introduction à l'handicap, je dirais. Mm. Dans les premières journées, là, je cherchais à m'inspirer ou quoi oui. que ce soit. Je ne sais pas trop ce que je cherchais. Puis j'ai trouvé ça, puis la chanson, là, autant dans les paroles que dans le rythme, est positive.
Oui.
Vraiment. Donc, c'est dans la logique que j'ai de construire et ne pas se laisser déconstruire.
Que c'est bien dit. Et si on parle de tes passions, parce que tu nous as dit que tu es un grand sportif, tu jouais au tennis. T'as fait du soccer, du ski alpin et quoi d'autre?
Oui, j'ai fait quand même beaucoup de sport, oui. Beaucoup à tennis, soccer, vraiment mes deux principales passions avant le handicap. Donc oui, ça a été un réapprentissage. Je me suis mis en mode découverte. Là. Le tennis, c'est la chose qui me manque le plus, ça c'est clair, net et précis. Mais là, j'ai essayé le piano. Je suis pas super bon, mais je chemine tranquillement. Je me suis remis à la lecture énormément. J'avais délaissé la lecture là, depuis, je dirais, les études collégiales, universitaires. On a tellement de lectures obligatoires qu'on oublie que c'est plaisant de lire. Donc, je me suis, j'ai retrouvé une grande passion dans la lecture. J'ai même lancé une plateforme Espace littéraire, qui est un genre de club virtuel d'échange, de critiques et d'appréciation de lecture pour provincial, en fait. Mm. J'ai lancé ça avec une amie il y a quelques semaines, puis c'est vraiment un gros succès, c'est super plaisant.
Comment on peut y accéder à cette plateforme littéraire?
Oui, c'est une page Facebook, Espace littéraire, super facile à trouver. On va bientôt être sur un site web lié au Salon du livre. Mais pour l'instant, là, c'est soit par Facebook, Espace littéraire, ou Instagram aussi, Espace littéraire.
Mmh. Et si tu avais un livre à nous suggérer en ce moment, ce serait lequel?
En ce moment, j'ai eu un giga coup de cœur pour Soleil, qui est imprimé aux éditions La Peuplade, écrit par David Bouchet. Ça m'a touché parce que je suis allé au Sénégal en 2015. J'ai fait un stage de coopération internationale de un peu plus de 2 mois là-bas. J'ai gardé beaucoup d'amis, de contacts. Puis j'ai un ami là-bas qui est extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait bâtir plein de choses, mais qui est hyper limité avec les contraintes de son pays, financière surtout et familiale. Là, c'est lui qui est en charge de la famille, son père étant parti. Puis là, il est en gros questionnement de qu'est-ce qu'il devrait migrer, même illégalement dans d'autres pays, en pirogue, dans la mer de nuit. Puis on a beaucoup de débats là-dessus. Puis ce livre-là était justement une famille sénégalaise qui venait s'installer au Québec. Puis j'ai retrouvé énormément nos discours respectifs dans cette œuvre-là. Puis c'est le narrateur est un enfant, donc ça amène une certaine naïveté puis bonté. Oui. Dans l'approche de ces questions qui sont très, très profondes.
Wow, donc le livre « Soleil », on en prend note. Et bien là, tu nous parles de soleil. Julien, j'ai envie que tu nous fasses rêver ou voyager un peu. T'as fait d'autres voyages en plus de celui-là?
Oui, j'ai voyagé quand même beaucoup, surtout avant mon handicap. Là, plusieurs pays en Europe, Suisse, France, Portugal. J'étais de stage humanitaire au Costa Rica, au Sénégal, petite escale au Maroc, beaucoup États-Unis, Canada, etc. Donc, quand même, beaucoup de voyages. C'est encore une grande passion pour moi. Là, avec le handicap, j'ai risqué l'année dernière d'aller pour une première étape dans le sud avec une amie. Ça s'est super bien passé, mais c'est quand même beaucoup d'organisation, de s'assurer des transports et tout ça, d'avoir un hôtel aussi adapté. Oui. Là, ma prochaine étape, je partais... quand la pandémie s'est installée au mois de mars, je retournais dans le sud avec cette même amie et la semaine d'après, je partais en France pour un congrès de journalisme. Tout ça a été annulé, donc là, j'avais réussi à trouver là pour le transport, l'hébergement, tout ça. Donc, j'allais vivre l'expérience européenne pour une première fois en fauteuil. Donc, c'est partie remise là, après la pandémie là, d'aller du côté de l'Europe là, pour un prochain voyage.
Quel dommage, je te souhaite de pouvoir le vivre bientôt. Hein?
On se souhaite, les vaccins approchent tranquillement.
Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de choses qui doivent arriver avant. Et je veux absolument, Julien, que tu nous parles de ton projet d'adoption au masculin singulier. C'est le titre que tu as donné toi-même à ta chronique.
Oui, j'ai vraiment la flamme paternelle très aiguisée depuis longtemps. Toujours eu le désir d'être père. Puis là, je commence à être impatient. Je n'ai pas de conjointe, donc c'est pas facile de faire un enfant seul. Surtout pas pour un garçon. Alors, c'est ça, j'ai entamé certaines démarches. C'est très compliqué pour un jeune homme célibataire. À l'international, il y a seulement 2 pays qui acceptent les hommes célibataires, alors que les femmes célibataires sont acceptées là, dans 20 de pays. Donc, il y a une discrimination inversée de ce côté-là.
Et quels sont ces 2 pays?
Haïti et Colombie. Puis, il y a la Bulgarie. En fait, Haïti, ça commence. Il faut faire des demandes, puis il y a eu des exceptions. Okay, les deux seuls où c'est vraiment écrit que c'est accepté, là, c'est Bulgarie et Colombie. Colombie, c'est souvent 3 ou 4 enfants à la fois. Donc, un petit peu plus compliqué. Puis, Bulgarie, c'est beaucoup d'enfants là, malades, avec handicap, tout ça. Je regarde de ces côtés-là. Je suis sur la liste d'attente au Québec pour l'adoption à la naissance, ce qui est vraiment très rare de nos jours. Donc, je pense que je suis 13e sur la liste d'attente, mais je peux m'attendre à 8-9 ans de délai, là, parce que c'est à peu près un enfant par année. J'ai fait des démarches aussi pour être famille d'accueil. Là, j'ai mis ça un petit peu sur la glace à cause de mes horaires de travail. Là, c'est quand même très restrictif. Mm-hmm. Mais j'ai cet intérêt-là aussi. Là. Donc, j'essaie de toutes les façons à me questionner de comment je pourrais arriver à avoir un enfant avec moi.
En fait, je trouve ça touchant que tu nous parles de ta flamme paternelle, comme tu le dis. C'est rare, en fait, d'entendre des hommes. C'est pas, il n'y en a pas du tout, au contraire, mais c'est rare. Donc, j'apprécie que tu nous en parles, en plus, en ondes, à l'émission. C'est très inspirant. Et dans tout cet univers où tu parles de la mobilité réduite, le fait d'être célibataire en ce moment, tu as malgré tout reçu une belle réponse d'une dame dans ton parcours, parce que en fait, tu as été amenée à poser la question si, bon, je suis une personne à mobilité réduite et célibataire, est-ce que j'ai droit à mes chances malgré tout? Et tu as reçu une belle réponse par rapport à cette question?
Oui, c'est une question délicate et c'est vraiment partagé. On est à l'ère des sites de rencontres, applications de rencontres, et souvent, après quelques échanges, assez rapidement, là, je parle de mon handicap là, pour savoir si ça passe ou ça casse. Mm. Et souvent, ça casse, là, la majorité du temps. Puis je comprends ça en même temps, mais si on voit ça plus gros, je pense que ce que c'est, surtout dans mon cas, là, je suis très autonome. Mes déplacements vont quand même bien. C'est sûr qu'il y a quelques limites, là, mais c'est pas majeur. Mais oui, il y a quand même des personnes très ouvertes d'esprit qui sont prêtes à passer par-dessus ça. Mais je pense que c'est un petit peu plus difficile dans les nouvelles rencontres parce que t'as un peu une prise un peu contre toi, alors que des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, là, ont l'habitude de voir comment on fonctionne puis nous connaissent plus en profondeur, là, c'est peut-être plus facile à ce niveau-là.
Oui, certainement. Et il nous reste à peine 2 minutes. En quelques mots, est-ce que tu as un conseil que tu as envie de donner aux personnes pour mieux vivre dans leur peau, peu importe leur handicap ou leur différence?
C'est simplement d'être actif le plus possible. Moi, j'ai fait le choix. Ça faisait 3-4 mois de tests. J'étais à Montréal. J'ai dit, j'arrête tout ça. On va faire des tests plus espacés. Je retourne travailler. On va adapter, je vais m'acheter un condo, on va adapter le condo, le travail, tout ça. Je fonce, je suis impliqué dans plein d'organismes, là, autant pour les personnes handicapées que d'autres, là, au niveau professionnel ou autre. Être actif, c'est valorisant. Mm-hmm. Puis on oublie qu'on a une différence, qu'on a des freins parce que on n'a pas le temps de penser, puis on fonce. Mm-hmm. Puis je pense c'est d'être solidaire aussi. Moi, servir un peu de porte-voix à certaines causes, c'est un beau cadeau, un honneur, puis j'essaie de profiter de ça, puis de le partager.
Bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Julien Renaud, je suis persuadée, en fait, on est très chanceux de t'avoir pour tout ce que tu fais dans ton implication au niveau de la société, de l'accessibilité. Franchement, tu es un magnifique modèle et je te souhaite bonne chance pour ton projet d'adoption, entre autres, et tout le reste.
Merci beaucoup, Camille. Merci à toi aussi. Hein. Je te renvoie le compliment de ton émission. Très utile aussi pour la société.
C'est très gentil, Julien. Merci infiniment.
Merci, au plaisir.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter à chaque semaine. Je vous invite à reconsulter le site canalm.vusezvoix.com pour réécouter les émissions ou aller sur les plateformes de diffusion de balado, Google Podcast, Apple Balado et Spotify. Merci à ma belle équipe, Mathieu, Claire et Jean-Sébastien. À la semaine prochaine.